suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle conférence Pulse Uncover dans l'espace virtuel de Pulse Incubateur HES. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Caroline Widmer, la directrice du nouvel incubateur interdisciplinaire des 6 hautes écoles spécialisées à Genève. Créé en septembre 2019, on rassemble déjà à peu près 25 projets. Et on est regroupés en temps normal, mais petit à petit, on y revient sur 700 mètres carrés en plein centre-ville, juste en face des PIA, en face de, juste avant la gare. Donc voilà, les projets qu'on accueille sont issus de domaines extrêmement variés. Ça va de la tech à la mobilité douce, à la mode durable avec l'upcycling, les investissements d'impact, l'inclusion dans le monde de la musique, la santé, le social, encore le recyclage de déchets organiques. Donc c'est très, très vaste. Et notre ambition, c'est vraiment de soutenir des entrepreneurs qui vont créer les produits et les services de demain. Donc aujourd'hui, on retrouve petit à petit une vie sociale, alors que le déconfinement a été annoncé. On a pris le temps pendant 2 mois de réfléchir au sens qu'on voulait donner à notre vie, aussi fragile équilibre qu'on cherche toutes et tous à atteindre entre notre activité professionnelle, physique, voire même pour certains spirituels. Et puis là-dedans, il y a des entrepreneurs en fait qui nous accompagnent dans cette quête et qui créent des produits, des services pour nous accompagner dans voilà dans ce domaine. Alors à travers ces conférences qui ont commencé il y a pas très longtemps, on a envie de vous faire découvrir les personnes qui créent, qui entreprennent, qui innovent, telles que Janice Kerschbaumer, diplômée de la Haute École de Gestion à Genève et qui s'est lancée dans l'aventure des startups avec Neia. Et dans une seconde partie, on accueillera également Paul et Franck qui nous parleront de leurs projets qu'ils sont en train de développer chez Pulse. Donc Janice, je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. J'aimerais déjà remercier André qui nous a mis en contact. André est professeur de Lean Startup à la Haute École de Gestion à Genève. Et c'est vrai, quand il est arrivé chez Pulse avec son projet, il m'a tout de suite parlé de Janice qui lançait une super startup. Donc, c'est grâce à lui que tu nous as rejoint aujourd'hui. Donc, merci André. Et cette semaine, vous êtes en train de lancer, enfin surtout de tester une nouvelle application, Neia, qui met en commun des chefs amateurs et des fins gourmets adeptes de produits locaux. J'ai la chance de faire partie des bêta-testeurs. Donc, tous les 2 jours, j'ai mon petit plat qui arrive avec des super livreurs et je me régale vraiment. Donc, je me réjouis qu'on parle de Neia. Mais avant de parler de Neia, j'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots parce que tu as un parcours déjà juste extra et je pense que ça peut vraiment être intéressant pour plein de gens de découvrir ce que tu as fait jusque-là.
Oui, un parcours un peu animé, mais je pense que ça reflète l'hyperactive que je suis. Comme tu l'as dit, j'ai diplômé l'année dernière du bachelor IBM de la HEG. Et en fait, je suis arrivée en Suisse à mes 18 ans. Donc, j'ai grandi en Alsace, entre l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, parce que mon papa est autrichien. Et aujourd'hui, je travaille chez Neia, donc c'est mon deuxième emploi. Post-graduate. Et puis, ouais, j'ai la chance d'avoir une cour de récréation immense pour développer mes connaissances en marketing et puis business development à travers Neia.
Excellent. Et puis, par rapport à tes études, donc tu as choisi, il me semble que tu n'as pas choisi la HEG dès le départ. Tu nous racontes un peu ton parcours d'études et comment tu es arrivée jusqu'à la HEG?
Bah, en fait, moi, je ne connaissais pas la HEG, je ne connaissais pas les HES, je ne connaissais pas le système suisse. Donc, quand je suis arrivée en Suisse à mes 18 ans, j'ai commencé à HEC Lausanne. Et en fait, j'ai quitté après 6 mois parce que l'environnement, ça ne me plaisait pas du tout. Et surtout qu'il me fallait des ressources financières un peu plus importantes qu'une petite bourse pour rester en Suisse. Donc, en fait, j'ai trouvé très, très vite un travail en comptabilité dans une gérance à Lausanne. Et cette même année, je suis partie faire un voyage humanitaire en Asie. Et en fait, ça a changé ma vie parce qu'en rentrant, je me suis dit que c'était pas possible, que je pouvais pas rester dans quelque chose comme ça. Et j'ai entendu parler de l'HES à ce moment-là pour la première fois. Donc, c'était en septembre. Et en fait, j'avais 8 mois pour maîtriser l'anglais pour rentrer en IBM. Parce que bien sûr, je voulais pas faire le truc normal, économie d'entreprise. J'ai vu le système en anglais, je me suis dit, je vais faire ça.
Du coup, t'avais quand même des notions avant de rentrer à IBM ou...
Ouais, parce que j'étais partie donc 3 mois, 2 mois pardon, en Asie. Donc là, j'avais bien parlé anglais, mais c'était de l'anglais oral. Hein. J'avais pas fait de cours. Je maîtrisais l'anglais comme quiconque peut le faire après un petit voyage, quoi.
C'était où en Asie?
J'étais à Yogyakarta, donc en Indonésie. Et après, je suis partie, j'ai fait un grand tour où j'étais à Singapour, en Malaisie, j'étais en Thaïlande, j'étais à Bali, j'ai fait un grand tour, quoi.
Et donc là, en revenant, tu as quitté ton job?
Alors, en fait, je suis retournée travailler et ouais, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et il fallait que je termine, mais c'était 12 mois de stage ou 12 mois de travail pour entrer en HES. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a mis en contact avec ma première start-up. Donc, c'était des cours de guitare en ligne. Et là-bas, je suis entrée en marketing. Donc, c'était vraiment ma première expérience en marketing. Je savais rien faire. Dans la start-up, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de budget, mais c'est comme ça. J'ai travaillé.
De la guitare?
Non, pas du tout. Non. J'ai même pas appris en plus. J'ai travaillé là-bas pendant 6 mois. Et après, vu que c'était pas payé, j'avais encore un autre job à côté. Donc, j'ai tout enchaîné pour être sûr que ça aille, quoi. Et après, c'était hyper chouette parce que quand on commence à travailler, c'est hyper difficile de retourner aux études. Mm-hmm. Donc, le système HES, c'était parfait, quoi. Je pouvais continuer de travailler, je pouvais continuer de gagner un peu d'argent, puis en même temps étudier. Donc, voilà.
Et tu avais des profs extraordinaires.
Et j'avais des bons profs. Là, en train de regarder.
J'ai comme ça. Et voilà. Et en 2017, tu m'as dit que tu avais rejoint l'équipe de Coca. Alors, ça m'intéresse parce que c'est vrai que moi, l'expérience que j'ai de Coca, c'est que donc c'est Pascal Meyer qui a lancé ça, qui est un entrepreneur connu et reconnu en Suisse. Et ce qui m'a vraiment marqué à travers mon expérience, qui est toujours d'actualité avec Coca, c'est son sens du service. Je me souviens encore d'avoir fini une conférence, il était là, et puis je vais le voir en lui disant, bah voilà, mon mari, c'est votre premier client, il adore Coca, et puis il me dit, mais il est là depuis le début. Voilà. Puis je lui donne son nom, son identifiant, et puis c'est un vide poche. Et 3 jours après, mon mari reçoit un sac rempli de goodies, et j'ai halluciné, il avait même pas pris nom du pseudo et tout ça, et c'est vrai que ça m'a vachement marqué. Donc c'est quelqu'un qui se soucie des clients comme personne, et ça se sent. Et puis, je me demandais si ça t'avait marqué, ce genre de choses, dans ton passage chez Coca.
Ah oui, mais complètement. En fait, j'ai eu un rôle particulier chez Coca parce que je travaillais avec celle que j'appellerais toujours mon mentor, Sarah Besançon. C'est la loutre happiness, en fait.
Ah, excellent.
C'est elle qui s'occupe de toutes ces petites attentions, c'est elle qui gère tout ça, c'est elle la petite tête derrière l'attention des clients à ce niveau-là. Donc en fait, selon en quelle année c'était, c'est peut-être même moi qui t'ai envoyé ce petit sachet de goodies.
Excellent. Ouais, c'était probablement 2017. Ouais.
Mais ouais, c'est excellent. Sûr que c'est clair. En fait, chez Coca, ce que j'ai le plus appris, c'est le sens de la communauté. C'est-à-dire que en effet, les gens aiment Coca et Coca aime les gens. C'est réciproque. Et en fait, là-bas, le marketing que j'ai pu expérimenter, c'était sous une forme hyper intéressante parce qu'on cherchait toujours plus à développer cette communauté. Et c'est ça qui est intéressant au final. Ce n'est pas juste de vendre quelque chose, c'est vraiment d'avoir un échange avec le client.
Et j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'on est en train de retrouver chez Neya. Donc, pour avoir testé, je vous ai rencontré. C'est vrai que quand on vous voit arriver avec votre sourire jusque-là, vos petits plats dans des super jolis contenants, et puis nous aider aussi parce que voilà, vous lancez Lab, donc il y a des choses à améliorer, vous êtes en attente de feedback. On sent vraiment que votre but premier, c'est que des chefs soient heureux de cuisiner pour la communauté de Neya et qu'elle est en train de se créer. Donc là, toi, tu as rejoint l'équipe depuis quand, en fait?
Ça fait depuis décembre. Donc à la mi-décembre,
d'accord,
c'est Anouk, donc ma collègue de chez Coca aussi, elle travaille avec moi chez Coca. Elle m'a dit, écoute, j'ai un projet à te montrer, il faut que tu viennes, on a besoin de quelqu'un comme toi, quelqu'un qui sort de l'école,
cool.
T'es la bonne personne. Et en fait, comme je venais de passer un an à l'étranger, c'était parfait parce que je pouvais aller où je voulais en Suisse, je pouvais commencer ce que je voulais, j'étais prête à starter quelque chose comme ça.
Excellent. Et donc Neya, ça t'a tout de suite plu. Et ça veut dire quoi, Neya?
Neya, ça veut dire Never Eat Industrial Again.
Excellent. Ok. Donc, on va manger que des produits locaux, faits maison. Et bon, excellent. Je me réjouis. Et quel est le fondement derrière cette démarche? Alors, c'est vrai que la food tech est en train d'exploser, mais c'est pas complètement nouveau. Il y a beaucoup de food tech, notamment à Paris, qui sont nés dans les années 2015, 2017. Il y a pas mal de trucs. Par contre, on sent qu'à Genève, c'est pas encore, là, ça a donné un coup de boost avec la crise. Maintenant, tous les restaurants livrent, il y a des apps, il y a des services de livraison, mais des applications vraiment propres à la food et au bien-être, c'est assez nouveau. D'où vient, en fait, pour vous, sur cette démarche et comment c'est arrivé?
Pour expliquer un petit peu Neya, c'est tout simplement une app qui met en relation des gens qui cuisinent avec des gens qui veulent manger, des gens qui n'ont pas forcément faire à manger, mais qui veulent manger bien. Donc en fait, c'est né c'est tout bête, hein, c'est une situation dans laquelle on s'est tous retrouvés. On est au bureau, on a notre collègue qui a ramené son tube, et comme il cuisine super bien, on est dégoûté parce que lui, il a un truc tout bon, tout prêt, voilà. Et nous, c'est la cinquième fois qu'on allait chercher du pain et du houmous à la Migros, qu'on a testé trois fois le mois dernier le kebab du coin, on n'a pas forcément envie d'aller au resto parce qu'on n'a pas le temps. Et en fait, on regarde ce que le collègue il a fait et on se dit, j'aimerais bien qu'il m'en fasse pour moi aussi. Donc là, il s'est retrouvé dans cette situation-là. Il s'est dit, et si je te donnais un peu d'argent pour que tu me fasses une portion en plus? Donc après ça, ça c'était en 2017, donc ça fait déjà un petit moment. Et l'idée est que venue, il avait que le moyen de concrétiser l'idée à partir de l'année dernière. Donc il me semble qu'il a commencé à développer tout ce qui était UX, UI de l'app en l'été dernier. Donc ça fait quasiment un an maintenant. Et vraiment commencer le projet à l'automne.
Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Blas, c'est le CEO de Neya qui a lancé l'app et qui a déjà monté plusieurs startups et qui est en plein dans le lancement de Neya. Donc, chez Neya, vous êtes tous passionnés de bonne nourriture ou bien ça fait partie du CV, c'est nécessaire d'aimer la bonne cuisine?
Alors, ouais, mais de manière différente. C'est-à-dire que Anouk, ça c'est sûr qu'elle est là pour son côté... experte en cuisine parce qu'elle est nutritionniste. Blas, il aime manger, mais il n'aime pas faire à manger. Et moi, en fait, j'essaye de faire des trucs cool, mais à chaque fois, ça tourne un peu à l'échec. Donc, en général, les plats qui me font goûter, c'est sûr à 100% que ça va m'impressionner. Et c'est bête, hein, parce que quand on est fille de restaurateur, on ne va pas donner ses skills. Mais en tout cas, j'ai le plaisir de manger, ça, c'est sûr.
Ton père était restaurateur?
Oui, c'est ça, oui.
Ah, excellent. Mmh. Excellent. Très bien. Et puis, par rapport à, donc, je sais pas quand est-ce que vous aviez prévu de lancer Neya, mais est-ce que toute la crise, le confinement et tout ça, ça vous a plutôt boosté ou est-ce que ça vous a permis de finaliser certaines choses? Comment vous l'avez vécu, en fait, cette situation?
Au début, ça a été un petit peu anxiogène. C'est-à-dire que, comme tout le monde, on s'est retrouvé dans une situation où on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. Nous, on avait, en fait, une partie de notre stratégie, c'était tout ce qui était workshop. C'est-à-dire qu'on accueillait les gens ici à la Fondétech, on faisait des workshops à thème, on voulait vraiment partager quelque chose avec les gens. Donc, tous ces workshops-là, ils sont tombés à l'eau. Ensuite, on ne pouvait pas lancer les labs parce qu'on s'est retrouvés confinés en avril. C'était à contre-courant de ce qu'on nous conseillait. Et par contre, Blas et moi, on a continué de bosser ensemble. On a continué de venir au bureau, on avait de la chance parce qu'il n'y avait vraiment personne au bureau, on pouvait se le permettre. Par contre, on a mis tous nos collègues en home office. On a instauré des meetings le matin pour qu'on continue de se motiver, pour qu'on se dise un petit peu ce qu'il y a à faire aujourd'hui, ce qui s'est passé hier. Parce que mine de rien, au début du confinement, ça s'est révélé très calme. Et au fur et à mesure, on a quand même dû lancer quelque chose, on a quand même dû faire quelque chose pour que ça bouge parce qu'on ne pouvait pas... On devait être prêt pour la fin du confinement. Et puis, je le rappelle, en avril, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait sortir. On ne savait jamais. Donc, en fait, on avait mis des deadlines et puis on avait vraiment fait des scénarios. Scénario 1, on sort à cette date. Scénario 2, on sort à cette date. Scénario 3. Et puis, je me rappelle, en avril, on se disait, oh, mais on fait quoi si on doit lancer en juin? C'est hyper tard. Comment on va faire? Et en fait, c'est cool parce qu'on est retombé sur nos pattes assez facilement en lançant d'autres choses ou en créant d'autres systèmes pour quand même que Neya existe avant juin.
Ouais. Et puis, en fait, en termes de modèle économique, vous mettez des chefs qui, eux, sont rémunérés une partie pour les plats qu'ils cuisinent. Et puis, vous prenez une commission sur le montant ou les gens payent un abonnement pour être sur la plateforme?
Non, c'est comme tu as dit, le premier système. Donc, les chefs, c'est eux qui décident le plat de leur repas. Donc, s'ils ont envie de faire des choses bio, locales, un peu plus chères, il faut que le prix du repas puisse couvrir ces frais-là. Ensuite, nous, on prend 20% de commission. Par contre, si la personne est plutôt à prendre des choses un peu moins chères, elle pourra faire un repas moins cher, quoi. Mais le but, c'est vraiment que la personne puisse partager sa manière à elle de faire la cuisine. Donc, elle ne va pas acheter des ingrédients spécifiques pour faire à manger.
Ouais. Et puis là, donc, tu parlais du bureau. Donc, je sais que vous êtes hébergé à la Fondétech. Alors, le rôle de la Fondétech, qui est dirigé par Antoine Facio, que je salue au passage, c'est de soutenir les entreprises qui créent de l'emploi en ville de Genève. Et là, j'imagine qu'il y a eu un soutien particulier pendant cette crise qui vous ont apporté, ne serait-ce que pour savoir à quoi vous avez le droit en termes de loyer, en termes d'accompagnement.
Oui, c'est ça. En fait, ils se sont montrés compréhensifs et ils ont pris des mesures très appréciées, je dois dire. Et puis, en fait, grâce à ces mesures, on a pu garder la team au complet parce que sinon, financièrement, ça aurait été peut-être un petit peu plus difficile parce qu'on est quand même 5 en tout à bosser pour rien. Donc oui, ça pouvait passer tant par les règles qu'ils ont dû mettre au bureau pour l'hygiène, les règles au niveau du loyer, au niveau du... Voilà, après, on n'a vu personne pendant 2 mois. Donc, moi, je me réjouis quand même de retrouver toute la team.
Ouais, c'est clair. Et là, les bêta-testeurs, ben, comme moi, j'en fais partie, est-ce que vous avez... tout le monde a répondu positivement? J'ai l'impression que vous avez déjà une petite communauté qui est super engagée. Donc là, vous avez combien de bêta-testeurs?
Voilà, les bêta-testeurs.
Les bêta-chefs.
Ça, les bêta-testeurs, moi-même, je suis encore sidérée parce que c'est juste incroyable. En fait, tu parlais de soutien, mais le soutien, il vient surtout des gens. Mais vraiment, vraiment beaucoup des gens. Donc, en fait, on a lancé les bêta-tests pour qu'on puisse quand même faire tester Neya aux gens, tout en sachant que l'application n'est pas 100% fonctionnelle, qu'il y a des petits bugs. Et on s'est retrouvés avec... À l'heure actuelle où je te parle, on a plus de 8 ans de bêta-testeurs. Donc, la première semaine, on a bêta-test de manière physique, c'est-à-dire que les gens sont venus au bureau, quelques-uns, pas beaucoup. On a pris, c'était assez challenge du coup avec les mesures qu'on devait prendre, donc nettoyer le téléphone, porter le masque, tout ça, c'était un peu, ouais, ça m'a fait un petit peu bizarre, mais on a géré. La deuxième semaine, on a fait les premières livraisons, donc les premières commandes se sont passées. Et cette semaine, de nouveau, on a augmenté le nombre de chefs, c'est-à-dire que la première semaine, on avait 2 chefs par jour, et là, cette semaine, on s'est retrouvé jusqu'à 4 chefs par jour. Et on pourrait faire plus parce qu'il y a une énorme demande. Donc, au niveau des éditeurs, il y a une énorme demande. J'ai reçu des mails, je suis arrivée trop tard, je peux plus commander, il y a plus de plats disponibles, comment on peut faire? Et moi, j'ai envie
je crois que j'en viens partie.
Moi, j'ai envie de dire aux gens, je peux vous en apporter si vous voulez, il n'y a pas de souci, mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, on n'a pas le temps de rencontrer tout le monde. Donc, au fur et à mesure des semaines, on va ouvrir un petit peu plus les vannes jusqu'à qu'on ait, une app qui soit fonctionnelle à 99%, parce que ça n'a jamais fonctionné à 100%.
Et puis, par rapport donc, au chef, vous goûtez tous les plats?
Non, parce qu'on ne peut pas rencontrer tous les chefs. Il n'y a que 5 midis par semaine, donc on ne peut pas tout goûter. Par contre, ce qui était hyper cool, c'est qu'il y a beaucoup de chefs qui nous ont donné des petits échantillons. Donc, typiquement, hier, Pia, une de nos chefs, elle cuisine du... Donc, elle est cœliaque, donc elle cuisine du sans lactose, sans gluten. Et en fait, c'est juste incroyable ce qu'elle fait. Donc, elle nous a fait une terrine de lentilles avec un pesto, une salade de betterave. Et je ne me rappelle plus ce que c'était, des carottes, je crois. Mais c'était incroyable, vraiment, c'était incroyable.
Et là, cette semaine... Tu as aussi les cookies au M&M's qui étaient pas mal.
Ceux-là, ils ont du succès, ouais. Les cookies ont du succès.
Catastrophe, catastrophe. Et alors, une question qui est venue assez importante, et puis je crois qu'elle est aussi posée par Patrick. Comment vous garantissez la qualité des plats alors que... Ben voilà, dans les restaurants, les normes sanitaires sont hyper exigeantes, encore plus en période de coronavirus. Ils sont soumis, les restaurateurs, à des obligations légales. Et le chef, donc comme dit Patrick, le chef amateur dans sa cuisine à la maison, ben, il n'est pas soumis aux mêmes normes. Vers qui on se tourne s'il y a une intoxication alimentaire, s'il y a un problème avec le plat, tu vois?
Alors bon, il faut savoir que quand un chef poste un plat sur l'application, il répond à un questionnaire qui concerne tant bien la préparation que la conservation, que les allergènes. Il répond à toutes ces questions et il s'engage à les exactitudes de ce qu'il répond. C'est-à-dire que, en fait, on a adapté ce que les restaurateurs ont dans les restaurants en termes de normes d'hygiène, on l'a adapté pour la maison, parce qu'il n'en existe pas à l'heure actuelle. Et c'est très important que les chefs respectent ces règles. Et nous, on souhaite les éduquer à ce sujet-là. Et typiquement, en fait, quand on n'est pas allergique ou pas intolérant, parce qu'on parle de l'hygiène, mais on parle aussi des gens qui sont intolérants, quand on est allergique à quelque chose, voilà, on ne se rend pas compte comme c'est important de les respecter. Et ben là, quand on a fait notre premier test, il y a des chefs qui nous ont dit « Mais ça veut dire quoi, l'anhydride sulfureux? Moi, je ne sais pas ce que c'est, ça, comme allergène. » Et du coup, nous, on était là « Ben, voilà, tu t'engages. » Je ne sais pas si tu sais ce que c'est d'ailleurs.
Non.
C'est un conservateur, en fait. C'est un conservateur.
Ok.
Donc, ça peut être grave pour les asthmatiques, typiquement.
Ok. Par contre, il n'y a pas de contrôle. Il y a une ça marche sur le mode confiance, engagement et respect des règles quoi.
Il y a une certaine forme de contrôle parce que chaque personne qui veut poster un plat, elle doit être acceptée, elle doit être validée par la team. Donc nous, on passe un coup de fil, on veut parler avec la personne, quelles sont ses motivations, comment elle fait la cuisine, on veut parler avec elle, on veut avoir un petit échange. Et aussi simple que ça. Donc le contrôle, il est là.
Ok, parce que là, Patrick dit que légalement, il est étonné que ça passe. Je pense que vous êtes back-upé au niveau légal. Oui. Et donc là, les éléments, en fait, les documents que le chef signe en s'engageant dans cette démarche, l'engagent légalement, en fait, à produire des produits qui sont dans le respect des normes que vous avez édictées. C'est ça ?
C'est ça, exactement.
Ok. Très bien. Et puis, donc là, par rapport au cluster de la food tech, c'est donc vraiment l'innovation qui est liée à toute la chaîne de la valeur alimentaire, de la ferme à l'assiette, en passant par la production, le transport, la transformation, la distribution, la consommation, le recyclage. Vous vous situez où dans cette food tech?
Mais presque partout, en fait.
C'est ça, hein.
La personne, elle va faire ses courses, donc elle va choisir d'où est-ce qu'elle veut que les aliments soient. Elle va les préparer, donc elle choisit comment elle va les préparer. Elle va aussi rencontrer la personne, donc il y a une certaine forme de livraison, en fait. Soit le eater, il va venir chercher le bol, soit la personne va le livrer chez le eater. C'est un arrangement entre les deux. Donc, partout, en fait. Puis surtout, Neya, c'est le partage de plats, mais c'est aussi ne pas jeter sa dernière portion de lasagne parce qu'on n'arrive plus à la manger. Donc, il y a aussi le food waste qui rentre en compte, quoi. Il y a beaucoup de choses.
Ouais, c'est clair. Et puis, il y a une question assez intéressante aussi. Est-ce que vous avez des concurrents à Genève? Est-ce que, par exemple, on a vu pendant le confinement le nombre de plats qu'on a commandés, qu'on s'est fait livrer par Uber Eats, par Smooth, par les restaurateurs eux-mêmes. Est-ce que eux, c'est des concurrents ou vous situez tellement sur le côté collaboratif et échange entre des passionnés, des fins gourmets et ce côté justement un peu cycle court, ressources durables, etc. Est-ce que ça vous rend un peu unique sur le marché?
C'est ça, en fait. Ce qu'il faut en comprendre, c'est qu'on n'est pas un restaurant, on ne veut pas concurrencer les restaurants, on ne veut pas que les gens deviennent des restaurants à la maison. Neya, c'est un projet de partage avant tout. C'est pas pour dire aux gens n'allez plus au restaurant, commander quelque chose que quelqu'un a fait à la maison. C'est quand on est au bureau qu'on en a marre de manger la même chose. C'est principalement comme ça. Alors des concurrents à notre échelle, notre niveau de développement, non. Par contre, il y a des idées qui émergent à Lausanne, très similaires, et ça prouve en effet qu'il y a de la demande tant sur Lausanne que sur Genève.
Il y a Joachim qui demandait qu'il n'avait pas très bien compris comment s'effectuaient les livraisons. Donc pour le moment, les bêta-tests, c'est vous qui faites les livraisons, mais après, il y a aussi une mise en relation entre le chef et la personne selon où elle est, qui va directement chercher son plat ou le chef qui l'amène, ou comment ça se passe?
C'est ça. En fait, normalement, quand on arrive sur l'app, c'est une carte et c'est ultra géolocalisé. Donc, en théorie, on est censé choisir la personne qui est autour de nous. Dans l'idéal, c'est quelqu'un qui travaille dans le bureau d'à côté, c'est quelqu'un qui habite dans le quartier, dans l'idéal. Donc, on a cette proximité pour se rencontrer, s'échanger le plat. Nous, pendant les bêta-testeurs, le challenge qu'on a eu, c'est qu'on a eu des gens un peu partout dans Genève. Donc, on a eu tant Mérin que jusqu'à Cartigny, que jusqu'à Champel. On a eu un peu ce mix de personnes et on s'est dit, on ne va pas leur dire non, on va quand même les rencontrer. Donc, c'est ce que je te disais au début de la conférence. On a décidé de développer, on a décidé de tester des nouvelles choses pour voir si effectivement on pouvait mettre en place un système de livraison. Là, on est vraiment en plein dans les tests. Mais à la base, on veut prioriser l'échange entre le leader et le chef. On veut qu'ils puissent se rencontrer pour éviter ces frais supplémentaires de livraison.
Ok. Et puis, il y a une question encore de Patrick qui se demande quelles sont vos sources de financement.
Ah, ça, c'est plutôt une question à poser à Blas.
D'accord.
Moi, je n'ai pas l'exemple.
S'il est là, on peut le faire rentrer dans la conversation.
Il est pas là, il est en livraison.
Il est pas là. Très bien, on répondra à Patrick par mail directement. Alors, Paul, comment vous voyez l'arrivée sur le marché d'une cuisine centrale professionnelle de M3 à Plan et Watt? Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse rentrer Paul dans la conversation, ainsi que Franck. Comme ça, Paul peut te poser directement la question. Et puis après, on va le faire intervenir aussi avec son projet de vélo électrique qu'il est en train de développer chez Pulse.
Voilà. Hello.
Hello.
Alors, Paul, je te présente Janice. Janice, je te présente Paul. Donc, Paul, tu peux poser ta question en direct à Janice.
Alors ouais, le premier truc, c'est que j'étais très curieux sur l'aspect légal aussi. Ça me semble incroyable qu'on puisse laisser des particuliers sans contrôle, sachant que les contrôles sanitaires dans les cuisines des restaurants, c'est à la fois central et à la fois dur, enfin compliqué, très exigeant, avec des contrôles réguliers, etc. Comment est-ce que tu peux garantir la même vis-à-vis des intoxications alimentaires, de la fraîcheur des ingrédients, etc. Comment est-ce que tu peux le garantir? Ça, c'est ma première question. J'ai vraiment du mal à voir comment c'est possible. Et la deuxième chose, c'est effectivement sur l'arrivée de cette cuisine centrale majeure à Genève qui va servir à la fois beaucoup de restaurants et à la fois beaucoup de collectivités. Et donc, c'est le métier. Est-ce qu'à terme, il y a un risque de professionnalisation chez vous, chez Neya? C'est clair que les gens comme Uber, à la base, l'idée, c'était de faire ça de temps en temps pour dépasser, pour dépanner. Et puis, en fait, on se rend compte que des gens maintenant, dont c'est le métier. Donc, je pense qu'à terme, le risque, c'est quand même d'évoluer vers ce modèle où les gens vont se mettre à cuisiner pour l'argent et pas parce qu'ils ont des restes. Et la concurrence, d'une cuisine centrale où tu as des cuisiniers dont c'est le métier de produire de la nourriture de qualité avec tous les labels et crédentiels et les distribuer sur le marché. Donc, comment vous voyez ça, quoi?
Ouais, c'est ta question, elle revient tout le temps en fait. Hein, c'est les questions sanitaires. Alors déjà, moi, le point que j'aimerais souligner, c'est que en fait, on cherche effectivement, on cherche pas à ce que les gens se transforment en restaurant. C'est pas l'idée de Neya. L'idée de Neya, c'est le partage d'une ou deux portions en plus pour que les gens autour de toi puissent en profiter. Maintenant, par rapport à l'idée d'une cuisine centrale, en fait, les ghost kitchens, c'est ça aussi que M3 souhaite développer à Genève. Il y en a partout. Là où la loi intervient en termes de cuisine à la maison, c'est que la personne, elle ne peut pas dépasser un certain nombre de plats en cuisinant à la maison. À ce moment-là, elle doit effectivement se professionnaliser et puis rentrer dans la case de la.
Okay. Et quelle est cette limite du coup? Tu sais combien de plats tu peux cuisiner ou
Elle
avant de
n'est pas
devenir
définie
pro?
dans la loi. Elle n'est pas définie dans la loi.
Il y a Claude Michaud qui dit, est-ce qu'on pourrait comparer ça à la cuisine dans les maisons d'hôtes, en fait?
Exactement, ouais. Par contre, il y a une patente qu'on peut avoir à la maison pour cuisiner pour plus de 8 personnes. Ça, c'est possible que les personnes peuvent faire. Et en fait, il y a des formations qu'on peut faire pour obtenir ces certifications d'hygiène, de cuisine à la maison, de choses comme ça.
Et puis, là, je trouve intéressant de rebondir aussi, parce que Joachim propose que tu fasses les livraisons avec moto sacoche, ce qui peut être intéressant. Donc l'idée de vous faire intervenir, c'est qu'on voit que la tech, elle n'est pas là juste pour aliéner notre quotidien, mais pour allier le corps et l'esprit en quête d'équilibre. Donc toi, tu es vraiment plutôt dans le domaine de la mobilité douce. Tu peux nous parler un peu de ton projet moto sacoche?
Oui, mobilité douce, pour l'instant, c'est surtout un projet industriel, plus que de la mobilité douce. Et l'idée, c'est de relocaliser l'industrie et de se réapproprier nos moyens de déplacement, en fait, via Motostacoche, donc, qui est une marque de moto suisse qui existait entre 1890 et 1950, qui a vendu des motos dans le monde entier, qui a équipé tous les plus grands constructeurs de Ariel à Triumph, à Royal Enfield, donc des grandes marques de moto, qui a gagné nombreux records du monde. Et donc nous, j'ai racheté cette marque il y a quelques années, et on est maintenant en train de reconstruire sur la base du premier modèle qui a été créé par Moto Sacoche, une nouvelle Moto Sacoche type A et qui utilise uniquement l'électricité. Et je crois que surtout des vélos électriques, il en existe, ça fait un moment, le marché est en pleine croissance, mais malgré tout, il est de plus en plus mature. Notre idée, c'était pas de venir avec un énième vélo sourcé en Chine, assemblé à Taïwan et distribué en Suisse, mais plutôt de reconsidérer tout le circuit d'approvisionnement et tout le schéma de la supply chain pour créer un véhicule qui soit sourcé en Europe et assemblé en Suisse. Et notre défi, il est principalement à ce niveau-là. Donc après, on a évidemment un produit qui est joli parce qu'il faut que ce soit sexy et que ça se vende. Mais surtout, on veut essayer de prouver via cette moto sacoche que on peut se réapproprier, on peut se redévelopper de l'industrie locale. Donc, Suisse, juste en Suisse, c'est pas possible. C'est pas encore possible. Et ce sera probablement jamais possible parce que typiquement, il n'y a pas de minerai de fer en Suisse. Donc, voilà, on a certaines limites. Mais en Europe, déjà, si on arrive à se cantonner à l'Europe, à sourcer des produits en Europe et les fabriquer et les monter en Suisse, on relève un énorme défi et personne ne le fait aujourd'hui. Et c'est pour moi l'avenir de l'industrie en Suisse, c'est d'être autonome, de recouvrer une certaine autonomie vis-à-vis de nos moyens de production et de déplacement. parce qu'on se rend compte que quand les frontières ferment, typiquement avec le Covid, on ne peut plus importer. Si on ne peut plus importer, ben, potentiellement sur le long terme, on n'a plus de véhicules. Donc il y a ce côté-là, il y a le côté vélo, parce que c'est quelque chose qu'on veut encourager, qui est encore sous-coté aujourd'hui, et tout le monde se déplace encore trop en voiture. Le vélo électrique, c'est vraiment une solution de dingue qui donne énormément de plaisir, de bonheur, les gens s'activent, vivent et donc ça fait partie du lifestyle qu'on veut offrir. Et puis après il y a toute la partie communauté, enfin digital, c'est à la fois on veut réinventer le circuit de distribution en permettant aux gens d'être livrés chez eux et d'avoir de la mécanique à la maison, c'est-à-dire que le vélo puisse être révisé depuis chez eux et qu'ils aient pas à se déplacer, donc à la fois ramener du service et limiter au maximum le nombre de points de revente tout en maximisant les marges, parce que tu arrives à couper un peu les retail, le circuit retail classique où tu laisses 50% de marge à chaque fois que tu mets un vélo. Donc, okay. Il y a pas mal de choses qui se combinent pour en faire du vélo comme on en faisait il y a 150 ans, mais avec plein d'outils nouveaux et en phase avec notre époque.
Excellent. Et puis, y a une question, est-ce qu'on peut déjà l'acheter ? Est-ce qu'il est disponible ? Donc, j'ai déjà la réponse, mais tu peux expliquer à Patrick comment se passe le développement ?
Oui, bien sûr. Non, alors la découverte, moi je viens du milieu digital à la base, de l'IT, et en fait là on se rend compte en mettant les mains dans le cambouis que la production industrielle, c'est vraiment c'est long, ça met beaucoup de temps à être mis en place. Donc le processus de développement du vélo va prendre en tout encore au moins un an et demi. Là, on en est aujourd'hui à la phase du prototype. On a un vélo avec un moteur qu'on a fabriqué en Suisse, avec tous les éléments qu'on a fabriqués en Suisse. Donc sur le concept, on est en validation de concept. Et puis le vélo, il va falloir attendre encore au moins jusqu'à la fin de l'année, décembre, janvier de l'année prochaine, pour avoir une version pré-industrielle. Donc un vélo sur lequel qui aura tous les aspects du vélo de production, mais simplement qui sera l'état de pièce unique. Et puis, mais ça, il faudra attendre la fin de l'année. Pour l'instant, d'ici le mois d'août, là, on pourra faire un premier tour avec la moto sacoche qui aura peu de traits communs au niveau du design, mais toutes les fonctionnalités. Donc, ça, excellent. C'est le mois d'août.
Super. Bah, toi, Franck, tu es aussi dans le lien social à travers la tech et tu construis de belles boîtes à mettre dans les parcs. Je te laisse peut-être nous expliquer ce que tu fais et en quoi ça permet aussi de renforcer le lien social. Je trouvais intéressant aussi ce que Paul disait, c'est que le service, il est à ta porte. Il y a vraiment des circuits courts. On est dans un échange, dans cette démarche digitale et au service du bien-être. Donc, toi, tu peux nous parler un peu de BoxUp, hein.
Alors nous, chez BoxUp, ce qu'on veut faire, c'est de faciliter l'accès au matériel de sport et de loisirs. Donc, étant un fan de basket, l'année dernière, on a voyagé en Chine. Et là-bas, à chaque fois que je voyage, c'est impossible d'avoir un ballon, de pouvoir jouer au basket. Et ça m'avait assez frustré, enfin, sauf si je devais en acheter un et après me le trimballer tout le voyage. Donc, ce n'était pas forcément la meilleure solution. Et donc, on a eu cette idée justement de BoxUp, donc de mettre en place un casier connecté avec du matériel de sport dedans, où les gens, via une application, peuvent bénéficier directement du matériel sur les infrastructures. On s'était toujours dit que c'était un peu bête, en fait, d'avoir les tables de ping-pong, les terrains de basket, et de ne pas avoir le matériel avec pour en profiter, que souvent, ça pouvait limiter les activités. Et dans ce sens-là, aussi, c'est le but, c'est de pouvoir faire en sorte que les gens puissent bénéficier d'une activité de manière spontanée, c'est-à-dire on se balade dans le parc, on n'a pas forcément pris de matériel avec nous, on voit ce casier, et puis là, on peut directement s'amuser sur les infrastructures à disposition. Donc, comme Paul, nous, on est passé l'année dernière avec une année pilote à Yverdon-les-Bains, donc qui était une ville qui était prête à nous accompagner suite au concours Bref First Venture. On avait gagné justement 150 000 francs pour mettre en place la première version du casier. Donc, on a vraiment eu des feedbacks très positifs à la fois de la population et de la ville. Et cette année-là, on va revenir justement avec 5 nouveaux emplacements et 5 nouvelles boxes donc, qui seront mises en place en Suisse romande pour faire découvrir notre solution. Et après, au fil aussi de notre avancement, on a remarqué que sur le marché, il y avait très peu de solutions de casiers connectés d'extérieur, si ce n'est que ceux qui sont déployés par DHL ou La Poste pour récupérer les colis. On s'est dit quand même qu'il y avait vraiment quelque chose à la fois pour favoriser l'activité physique, mais aussi la mobilité douce, et aussi de pouvoir mettre à profit des gens un espace via une application mobile, donc sans avoir besoin d'acheter, transporter ou stocker quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça aussi, dans ce sens-là, peut-être ça pourrait intéresser ceux qui font du vélo ou de la moto. On aimerait aussi développer une solution qui soit justement pour les parkings où les gens puissent stocker leurs casques, qui souvent sont problématiques, on doit se balader avec toute la journée. Et c'est aussi dans cette optique de mobilité douce, de permettre aux gens d'être libres, quoi, et de bouger plus facilement.
Excellent. Et puis par rapport voilà, à la situation sanitaire, j'imagine qu'il y a aussi la problématique quand tu arrives dans ta box, puis tu as ton ballon de basket, tu fais quoi ? Tu as ton désinfectant sur toi
Non, on a mis des désinfectants. Cette année, on va mettre des désinfectants dans les box qui seront avec un antivol, quoi, relié. Et du coup, les gens pourront se désinfecter les mains comme ça. Après, c'est vrai que c'est un peu aussi de la comme on l'a vu en Suisse, c'est un peu chacun est responsable de soi et doit prendre les mesures. C'est le meilleur moyen pour épargner la maladie. Après, dans ce sens-là, c'est vrai que c'est un peu toujours difficile de s'adapter, mais c'est la meilleure solution qu'on a trouvée pour l'instant, quoi.
Ouais. Et puis, en termes de soutien, autant Paul que Franck. Donc, Franck, tu m'as parlé de Bref, là, le concours que vous avez gagné, 150 000 francs. Est-ce que vous avez d'autres soutiens que vous voulez partager avec les autres qui sont intéressants à spotter, à identifier? Janice, je ne sais pas aussi si toi, vous avez eu des prix, d'autres soutiens que vous avez. J'imagine que le prix du développement durable pourrait être, le prix IDEA pourrait être une piste. Est-ce que vous avez eu d'autres financements
Oui, Venture Kick. Donc on avait pu les remporter les deux premiers tours, donc c'est vrai que c'est un concours qui est bien, qui est assez challenging aussi, et on est entouré de beaucoup de professionnels, donc c'est vrai que c'était quelque chose que je recommande fortement de faire, qui est accessible à tous, donc ça, c'est bien.
Et Paul, toi t'es plus dans une levée de fonds, hein, c'est ça?
Ouais, en fait, de manière générale, je dois être beaucoup moins bon que Franck dans ces domaines-là, et du coup je crois beaucoup plus aux levées de fonds classique, en fait, de taper aux portes, aller voir des... En fait, tous les concours, il y a plusieurs choses. C'est intéressant. Maintenant, il faut bien regarder le détail de la proposition, de l'offre, quelle part du capital. Il y a souvent ce que j'appelle, ils agitent un peu le carnet de chèques en disant on est plein de sous, venez chez nous et on va vous loader. Et en fait, il y a plein de strings attached, je ne sais pas comment on dit en français, de
engagement
et de mécanismes qui font que par la suite, en fait, vous vous retrouvez attaché à quelque chose qui est peut-être pas ce que vous espériez au début, etc. Donc, il faut faire très attention avec ces concours. Il faut regarder dans le détail, prendre des avis et savoir de quoi il s'agit. Parce que l'argent, c'est évidemment clé au tout départ. Et du coup, on peut être tenté de céder à n'importe quel prix et de le regretter par la suite. Donc, faire gaffe. Et moi, de manière générale, c'est construire des decks, aller voir des investisseurs, trouver au max de smart money, c'est des investisseurs qui vont avoir la capacité de vous ouvrir des portes. Deux chèques de 100 francs ne se valent pas, quoi. C'est, l'argent n'a pas le même pouvoir selon s'il est détenu par quelqu'un qui a envie de s'impliquer, de vous aider, de vous ouvrir des portes, ou si quelqu'un qui veut juste du revenu. Donc ça, il faut aussi être super malin là-dessus et aller chercher les bonnes personnes pour accompagner le projet. Donc, ça veut dire passer énormément de temps à pitcher. C'est le boulot d'un start-upper, c'est ça, quoi. C'est pitcher.
Je vois Janice qui hoche de la tête. Donc, toi, t'as pitché.
Moi, c'est effectivement ça. Nous, on a aussi fait des sources de financement. Sont des investisseurs aussi. Bien qu'on ait participé à des concours, là, depuis le début du Covid, là, ça n'a pas remis à jour le tableau des applications, mais... En effet, c'était des sources de financement privées. Et comme Paul a dit, hein, c'est pitcher, c'est avoir un beau pitch deck, aller rencontrer des gens. Et Blas me l'a dit plein de fois, ce ne sera pas la même chose d'un investisseur à l'autre s'il a envie de s'investir. Donc, lui, il cherchait principalement des gens qui croient vraiment au projet, plus que juste pour donner de l'argent et recevoir quelque chose en retour à un moment donné, quoi.
D'ailleurs, il y avait une question tout à l'heure de Nicolas Montandon qui est avec nous. Qui demandait « Is your business scalable ? » Est-ce que tu peux faire croître ton business, par exemple, parce que Neya, ça va être Neya Genève, Neya Lausanne, Neya Zurich ou Neya Singapour ? Ou est-ce que pour le moment, vous êtes vraiment focusé sur Genève et,
Il a déjà scalé notre business d'une certaine manière parce qu'on était censé seulement lancer à Plan les Watts d'abord. Et en fait, on s'est dit que Plan les Watts, c'était trop petit, donc on a décidé de lancer sur toute Genève. Et bien sûr, hein, on espère que bientôt, quand les choses seront lancées, on puisse lancer sur Lausanne d'abord. Je pense que Bâle, ce sera la troisième ville. Et dans un futur, si tout va bien, hein, peut-être même ailleurs en Europe. Mais effectivement, il y aura d'autres règles à prendre en compte. Il y aura d'autres enjeux et ça, on verra. Mais oui, définitivement.
Excellent. Et puis, Joachim avait encore une question. Si les chefs réalisent de temps en temps des plats pour les autres, est-ce que c'est suffisant pour que Neya soit rentable ? J'imagine que ça aussi, ce serait plutôt une question à Blas, mais Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment, en effet, qu'il y ait une masse importante et puis des plats de différents montants pour que ça puisse, j'imagine, être rentable à terme.
Bah c'est ça, puis on connaît l'histoire de Uber hein, qui n'est pas rentable non plus. Donc, effectivement, ça c'est plutôt une question pour Blas, lui connaît les chiffres. Mm-hmm. Moi je connais la théorie derrière, mais en effet, il faut. Là à l'heure actuelle, c'est sûr que ça ne l'est pas pour l'instant.
Ouais, et puis bon, bah là, c'est vrai qu'on a un exemple de projet qui lutte contre le gaspillage alimentaire, la promotion de la communauté. Franck, toi, c'est plutôt le côté de se dépenser physiquement, le lien social. Paul, tu étais vraiment dans le côté circuit court, mobilité, on change de paradigme et on est tous à vélo et on laisse tomber la voiture. Est-ce que vous avez l'impression dans votre génération d'entrepreneurs, de vos proches, qu'il y a forcément un engagement social et bon pour la planète, pour un avenir durable quand on lance des projets aujourd'hui? Parce que c'est vrai que ben, chez Paul, honnêtement, il n'y a pas un projet qui n'a pas un sens. Est-ce que ça, c'est propre à l'entrepreneur ou est-ce que c'est propre à votre génération?
Ouais, je pense que c'est surtout par rapport à l'urgence de la situation dans laquelle on est et puis par rapport au rapport scientifique et par rapport à l'état des lieux actuels qui fait qu'on a envie de bouger dans ce sens-là. Après, moi, à la HEG, j'avais l'option en management durable. Donc, c'est sûr que j'ai toujours été sensibilisé à ces trois causes. Pour moi, l'économie, c'est pas que de l'argent, c'est aussi de l'intégration sociale et de l'intégration environnementale. Pour moi, sans ces trois piliers, un business, il est simplement pas viable. Donc, je peux pas l'imaginer autrement. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un peu des marques inspirantes comme ça, enfin, pour citer comme Patagonia ou des marques comme ça qui ont un peu ouvert la voie. Mais maintenant, c'est vrai qu'on voit ça de plus en plus. Ensuite, faut faire attention aussi parce qu'on voit aussi des grandes entreprises qui essayent de se mettre là-dedans. Puis c'est un peu du greenwashing et souvent, bah, ils volent la couverture à des plus petits qui, des fois, veulent faire les choses bien. Mais je pense qu'à terme, c'est clairement la direction qu'il faut prendre. Et puis, c'est au-delà d'un aspect générationnel, c'est plus un aspect d'urgence, à mon avis aussi.
Mais d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, j'ai lu récemment qu'il y a 150 entreprises CEO de grosses boîtes hein, comme Nestlé qui ont dit que maintenant, ils s'engageaient définitivement pour le climat et qu'ils voulaient faire bouger les choses. Alors, est-ce qu'on parle de greenwashing ou qu'on parle de réel engagement? Je vois Janice sourire.
clairement, hein, je veux dire, c'est des sociétés qui font... On va pas commencer à débattre maintenant, mais ça fait des années que... Ça fait déjà plusieurs années qu'on est en train de se battre pour quelque chose et ces entreprises, elles viennent là maintenant. Ah, en fait, on a changé d'avis. C'est cool, c'est bien parce qu'ils ont un impact et en faisant comme ça, on espère que cet impact, il va finalement être positif. Mais il fallait peut-être un peu se réveiller plus tôt.
Voilà.
Mais tant mieux. Ouais, non, c'est en fait, tant mieux. C'est vrai que sur les intentions... Ça reste une grande entreprise et pas comme une start-up. Elle a des employés, elle a un payroll, elle a des actionnaires et du coup, elle a pas cette possibilité d'être aussi agile que peut l'être une start-up. Et le capital est crucial, c'est au centre. Ça veut dire, ça a été au centre de l'entreprise pendant 100 dernières années et ça continue à l'être. Donc, faut pas être trop idéaliste aussi. Il y a plein de services. C'est toujours l'exemple qu'on cite sur le pétrole. Sans pétrole, tout le monde dit ouais, Total, pétrole, c'est dégueulasse. Bah oui, mais tout le monde en utilise et nous quatre, on en utilise tous les jours. Donc, il y a un moment, il faut être aussi en phase avec notre mode de consommation. Beaucoup de gens se pensent écolo, etc. Et en fait, ont des modes de consommation qui ne le sont pas du tout. Donc, c'est facile d'être. Aujourd'hui, il y a une telle pression sociale du greenwashing, enfin du green, que c'est difficile d'être autrement. Et c'est peut-être pour ça que tout le monde en parle et tout le monde est là-dedans. Parce que c'est difficile de ne pas l'être. Et donc, il y a quand même ce poids social qui aujourd'hui peut inciter à prétendre et à dire que, alors qu'en fait, on se rend compte que c'est un problème qui est éminemment complexe. Et on prend souvent l'exemple des bouteilles en verre vs le plastique. Tout le monde dit, ouais, le plastique, les bouteilles en plastique, c'est la plaie, c'est ce qui pollue les océans, les poissons mangent des bouchons, etc. Et ça va pas. Et c'est vrai. Maintenant, si on remplace le plastique par du verre, le plastique, c'est deux fois plus lourd. Ça fait exploser les coûts de CO2 pour transporter le verre. Ouais. C'est plus lourd, donc ça fait exploser les coûts de CO2. Et de fait, on se rend compte qu'en fait, l'écologie, on a un monde, un système qui est hyper imbriqué, qui est très compliqué et que du coup, c'est très difficile d'avoir de l'impact et de mesurer correctement cet impact. Donc, aujourd'hui, il y a au moins une conscience. Quoi. Et peu importe si les gens le font pour les bonnes ou les mauvaises raisons, il y a besoin d'agir de manière urgente. Donc, tant mieux. Après, il faut trouver maintenant les vrais moyens de mesurer ça correctement et d'avoir un vrai impact. parce que c'est très facile d'essayer de faire de l'impact et de faire tout le contraire, quoi. Donc, faut être prudent et assez humble avec ça.
Complètement. Et puis, c'est pas tout noir ou tout blanc, hein. On peut pas être 100% écolo ou 100% pas écolo. On aura toujours des gestes qui le sont et d'autres qui ne le sont pas. Mais je pense que l'important, c'est de faire un effort à notre manière, chacun, d'essayer de choisir des options viables dans le futur. Et effectivement, les entreprises, les grosses, elles peuvent pas. Il y a une agilité qui n'existe pas à ce niveau-là. J'avais travaillé chez Starbucks il y a 2 ans quasiment. Tout d'un coup, j'ai eu une lubie où je me suis dit, tiens, j'ai envie de devenir barista, je veux entrer dans la sphère Starbucks et je veux voir comment ça marche. Et en effet, la dose de café qui est jetée à la poubelle, les aliments, les trucs frais qu'on ne pouvait pas donner aux gens parce qu'il y a risque d'intoxication, tout ça, donc il faut absolument les jeter. Les boissons qui ont été faites, mais ce n'est pas les bonnes, donc on les jette. Les gobelets qu'on jette en plastique, on ne peut pas recycler. Il y a énormément de choses comme ça qui à l'heure où on se pose ce genre de questions en travaillant là-bas, ça fait mal au ventre.
Pour rebondir sur ce que tu disais avant, et Caroline, par rapport à notre génération d'entrepreneurs, je pense aussi qu'il y a une véritable recherche de sens, une quête de sens dans la manière de produire et de ce qu'on fait. Même si à petite échelle, c'est déjà de commencer sur des bonnes bases, que ce soit par exemple de pôles, par exemple, qui se sourcent en Europe, c'est quel est le sens d'avoir un moyen de locomotion écologique, mais qui a été sourcé à l'autre bout du monde. Donc, c'est déjà ce genre de questions auxquelles on va répondre. Pour Janice, sera peut-être quel est le sens d'avoir des produits soi-disant bio, mais qui sont remplis de produits chimiques dedans. Donc, ce sera ça pour nous. C'est aussi quel est le sens de devoir se déplacer avec son matériel ou de devoir surconsommer pour des choses qu'on va peu utiliser. Et puis, je pense que c'est sur ça aussi qu'on a envie de se baser et puis construire sur des bases solides et puis après grandir là-dessus, que ce sera beaucoup plus facile. Ce que je vois aujourd'hui déjà, les relations qu'on a avec nos fournisseurs et à quel point c'est difficile de trouver un fournisseur fiable et viable à long terme. Donc, à mon avis, c'est vrai que, comme on l'a dit avant, des entreprises qui sourcent en Chine depuis le début, ça va être super difficile pour eux de changer toute leur chaîne de production. Et puis, on espère que des petits comme nous, on arrivera à être plus agiles et plus rapides là-dessus.
Paul, il y a toujours Patrick qui te pose une question. Est-ce que tu es un fournisseur producteur de batteries européen?
Non.
Non.
Non, en fait, oui, alors, ce sont des producteurs de batteries européens, mais les cellules qui sont utilisées, elles ne sont pas européennes. Et les terres, de toute façon, les terres qu'on utilise pour faire des batteries, elles sont rarement sourcées en Europe. Donc, il y a effectivement, en fait, sur chaque aspect, quand on parle de la voiture électrique comme un moyen de locomotion vert, c'est faux. En fait, c'est de la mauvaise information. La seule moyen de ne pas consommer d'énergie et d'économiser, de moins polluer, c'est d'arrêter de se déplacer, quoi. Donc après, je trouve la complexité de notre société et de notre génération, cette conscience écologique est exacerbée. Et du coup, si vraiment tu vas au bout du raisonnement, en fait, tu fais rien. Tu restes chez toi et t'attends la mort. Donc, du moment que tu vis, tu pollues. Une vache pollue, nous on pollue. Enfin, je veux dire, par essence, juste en étant. Donc après, il faut trouver de nouveau le juste milieu entre consommer ce qu'il faut, offrir des alternatives mais qui sont durables. Et c'est, encore une fois, c'est un chemin hyper compliqué et semé d'embûches. Il suffit pas d'avoir la bonne volonté, il faut être hyper carré derrière pour réussir à le faire correctement, quoi. Donc
Bon, y a Nicolas Montorneau qui t'indique le clencher. Je sais pas si tu as déjà pris contact avec eux.
Non.
Peut-être que ça peut être une piste à explorer. Merci, okay. Nicolas.
Merci.
Mais c'est vrai par rapport à ce que tu dis. Enfin, moi, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, ce confinement, ça m'a pas dérangé une seconde de pas consommer pendant 2 mois. Bien au contraire, je pense que ça m'a freiné carrément. Aujourd'hui, j'ai même pas envie d'aller dans les magasins, surtout vu le monde. Par contre, ça a exacerbé le lien social qui me manquait et que je suis hyper heureuse. Et ça fait peut-être un peu naïf de dire ça, mais c'est vraiment ça que je suis heureuse de retrouver dans cette période où on retrouve nos amis, nos familles, etc., les gens de chez Pulse. Pour moi, c'est le truc le plus important dont je me suis rendu compte. Je sais pas si pour vous, ça a été aussi. Neya, je pense que typiquement, c'est crucial chez vous. Ça fait partie de votre ADN. Donc là, ça a dû être un bonheur de retrouver les gens, de pouvoir aller les voir.
Complètement, complètement. Moi, de toute façon, de base, je suis ce que j'appelle un animal social. Donc, j'adore sortir, j'adore aller rencontrer les gens, j'adore ça. Et c'est vrai que pendant ces 2 mois, c'était compliqué. Et là, à la sortie, ce qui fait énormément plaisir, c'est de pouvoir retourner dans pouvoir dans les restaurants, de pouvoir retourner boire des verres. Et puis au niveau de Neya, de pouvoir aller chez les chefs. Là, maintenant que les gens sont un petit peu plus apaisés, ou ils savent comment faire au niveau des gestes, au niveau de l'hygiène et tout ça, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on aimerait se saluer, comme on a l'habitude de saluer, on aimerait faire... On aimerait faire la bise, on aimerait serrer la main, mais on n'ose pas trop. Donc, ça, à ce niveau-là, au niveau social, ça manquera encore pendant un petit moment. On est sur la bonne voie, enfin, j'espère, si on n'a pas une deuxième vague.
Ouais, j'espère. Et puis, je vais peut-être prendre une dernière question qui est intéressante. Donc, vous avez eu une médiatisation importante rapidement sur la télé, notamment. Est-ce que ça vous a seulement aidé ou aussi posé des challenges inattendus ? A posteriori, que conseilleriez-vous aux startups qui n'ont pas encore mis leurs produits sur le marché ? Faire le plus de bruit possible ou y aller progressivement?
Ça, c'est toute la stratégie de l'entreprise, en fait, au niveau marketing. Hein. C'est-à-dire que nous, on a eu une de nos canaux, c'était la presse. On a d'abord été dans la tribune de Genève et après la tribune de Genève, on s'est retrouvés à la RTS. Ensuite, pendant le confinement, on s'est retrouvés dans le Goemio. Et puis aussi, on a eu un petit article dans Le Temps. Et à la sortie du confinement, Blas est encore passé sur Radio Lac. Donc effectivement, ça a fait pas mal de bruit. C'était que du positif. C'était vraiment que du positif. On a eu les gens se sont posé des questions, ils sont venus voir. Il y a énormément de gens qui adorent le concept. C'était positif. Après, d'un point de vue stratégie pour se faire connaître, pour faire parler de sa startup, moi, ce que j'ai vu à travers Neya, c'est que les réseaux sociaux sont indispensables. C'est la vitrine de l'entreprise, c'est le passage du message, c'est présenter qui est dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, mettre un visage sur le concept, et ça c'est sine qua non. Et du coup, derrière ça, il y a une activité, il y a une présence à être sur les réseaux sociaux qui est tout aussi importante que la presse. Et nous, on a énormément travaillé avec les influenceurs donc de la ville de Genève, les influenceurs genevois. Et eux, en fait, ils ont vraiment bien transporté le message Neya. Donc, c'était ça, nos coups de boost principaux. Et c'était positif.
Excellent. J'espère que ça a répondu à la question. Bah, merci beaucoup à tous les trois. C'était, comme d'habitude, un échange super intéressant et très riche. Merci à vous quatre. De rien, Patrick, c'est un plaisir. Bonne chance pour tous vos projets. Je suis hyper contente parce que c'est vrai que Franck, tu es en train de vendre des box dans les communes, mais il faut que les communes connaissent vos produits, donc on va faire du bruit autour des box. Paul, je croise les doigts pour que cette levée de fonds se termine et qu'on puisse voir le premier modèle, même s'il n'est pas encore le design final en août, et on se réjouit vraiment de faire du bruit autour. Et puis Janice, moi, je vais aller me chercher mon plat dans ma boîte à lait immédiatement pour pouvoir me régaler. Mais c'est vrai que les questions d'hygiène et tout ça sont très importantes. Mais c'est vrai aussi que les trois plats que j'ai testés jusque-là, c'était topissime, délicieux et hyper sain. Alors, c'est vrai que mon mari, les lasagnes avec la farine de pois chiche, il était moyennement emballé. Mais ça, c'est bon.
Non, mais ouais. C'est ça, hier, du coup, la terrine de lentilles, quand on a fait goûter à notre collègue qui n'a pas du tout l'habitude de manger des trucs comme ça, il a goûté et dit « c'est la première fois que je mange quelque chose qui a le goût de légumes, mais qui est bon
!» Voilà, bonjour des légumes. Bon, merci beaucoup à tous. À très bientôt.